grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jacques Massangou Amwanza. Il a été plusieurs fois ambassadeur dans beaucoup de pays européens. C'est un homme politique, mais qui a pris sa retraite maintenant, j'imagine, monsieur l'ambassadeur.
Oui, en fait, je suis pour le moment au pays. J'ai été rappelé pour d'autres fonctions et finalement, j'avais demandé moi-même la mise en retraite. J'attends encore, elle n'est pas encore effective.
À 85 ans, on a envie de se reposer quand même, hein?
Bien sûr.
Vous êtes né un certain 20 novembre 1928 à Mulongo.
Oui.
Mulongo, c'est dans quel coin du Katanga? Pour ceux qui ne connaissent pas ce coin.
C'est dans le nord du Katanga, en territoire de Malemakulu, et le district de Olomami.
Et c'est à Mulongo où vous avez passé votre enfance?
Oui, jusqu'à l'âge de 7 ans.
Pour aller où?
Pour aller à Elizabethville.
Lubumbashi aujourd'hui.
Lubumbashi aujourd'hui, oui.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Malemba? Plutôt Mulongo pour aller à Lubumbashi? Pour quelle raison?
Non, mes parents étaient déjà à Lubumbashi. Ce sont mes parents qui avaient fait appel à moi pour que je puisse aller étudier.
Vos études primaires, vous les avez faites à Lubumbashi aussi?
Oui, à Lubumbashi. Après Lubumbashi, nous étions à Likasi. À l'époque, on l'appelait Jadoville.
Jadoville qui était parmi les plus belles villes du pays, hein, à l'époque.
Oui, à l'époque, c'était même la première ville du Katanga, la plus belle, la plus propre.
C'est plus le cas aujourd'hui?
Non, ce n'est plus le cas.
Ça a beaucoup changé, ça s'est détérioré.
Beaucoup trop.
Et vous avez fait vos études primaires dans quelle école à Lubumbashi?
À l'école Saint-Boniface.
Saint-Boniface,
Kitumaini. Aujourd'hui on appelle ça Kitumaini aujourd'hui.
Voilà, vous avez grandi dans quelles conditions, monsieur l'ambassadeur?
Oh, dans de meilleures conditions, mon père n'était pas riche, il était domestique, il était cuisinier d'un ingénieur qui travaillait à l'Union Minière du Haut-Katanga.
Un ingénieur blanc, un blanc,
oui.
Ok, parce que quand on travaille chez un noir, je vois mal que quelqu'un puisse dire « on a grandi dans de bonnes conditions
». Non, bonne condition, bon, ça va, mais j'ai eu la chance d'avoir reçu une belle éducation. Même le patron de mon père m'aimait beaucoup. C'est lui qui, en fait, vérifiait même mes cahiers, mes devoirs quand j'étais encore à l'eau. Quand je rentrais de l'école, alors il m'appelait toujours « Jacques, viens ici, est-ce que tu as bien travaillé ?» Je lui montrais les cahiers, je lui montrais tout ce que j'avais à faire comme devoir.
Parce que vous habitiez la même parcelle que le blanc?
Oui, au Katanga, l'habitude était que les domestiques, surtout les cuisiniers, habitaient l'annexe de la grande maison de son patron, toujours, et ses enfants aussi.
Et il n'y avait pas cette distance, cet écart-là entre blanc et noir, parce qu'on sait que à l'époque coloniale, les noirs ne pouvaient pas aller chez les blancs.
Oui, il y en avait, ça existait, mais il y a, dans certaines mesures, certains blancs n'étaient pas tellement racistes. Il est évident que d'une manière générale, à l'époque, les noirs ne pouvaient pas circuler en ville, habiter donc dans des quartiers habités par les blancs après 19h. Ils devaient tous rentrer à la cité indigène, qu'on appelait ainsi.
Ambassadeur Jacques Massangou, vous venez de publier un ouvrage, Le Katanga, que veut-il ? Mémoire d'un ambassadeur. On va parler de l'ouvrage dans cette émission. Dans le premier chapitre de votre ouvrage, vous parlez de votre vie et quelque part, vous dites de mes souvenirs des jeunesses. Je ne dirais pas que cette jeunesse fut meilleure. Pourquoi ?
Justement, parce que mes parents étant, je ne dirais pas pauvres, mais mon père étant simple travailleur, simple cuisinier, ne gagnait pas beaucoup pour pouvoir élever plusieurs enfants.
Vous êtes issu d'une famille nombreuse ?
Oui.
Mais vous venez de dire que vous avez grandi dans de bonnes conditions. Ça ne suffisait pas ces conditions-là ? Il fallait plus
non,
que ça.
Non, à l'époque, avec 15 enfants, ce n'était pas facile.
15 C'est une grande famille.
Oui, je suis l'aîné de la famille.
Est-ce que c'est seulement à cause du fait que votre père était domestique qui vous pousse à dire que votre jeunesse n'était pas meilleure ou il y a d'autres raisons à part cela?
Oui, je dis, durant ma jeunesse, même à l'école secondaire, je dis pour pouvoir faire mes études correctement, travailler, c'est-à-dire après l'école. À l'époque, on avait avait ce qu'on appelle des gants. On commençait à 8h jusqu'à 11h. On terminait les cours et puis on rentrait de 14h à 16h. Alors, le soir, je devais rentrer vite, aller faire ce qu'on appelle naturellement en Europe le job pour les élèves ou les étudiants. Je devais travailler comme un petit jardinier, arroser les fleurs de blanc et tout ça pour avoir un peu quelque chose, pour me permettre d'acheter au moins des cahiers ou des culottes, des trucs comme ça. Parce que mon père était incapable de nous payer tout cela.
Et toujours dans votre ouvrage, parlons de vous-même, vous dites que votre admission au camp des circoncisions où une dure épreuve d'éducation et des soins de nos plaies aux feuilles d'arbres imprégnées de sève anti-tétanos vous a donné le courage d'être un homme valide devant affronter n'importe quel obstacle.
Oui, en fait, lorsque vous êtes circoncis, après les plaies, on était initié à un courage qui vous disait, attention, ne vous laissez pas faire lorsqu'il y a des envahisseurs qui viennent d'autres villages. Vous devez vous battre et puis vous devez avoir l'autorité sur votre femme, oui. Et la femme, avant de vous donner à boire, elle est obligée de s'agenouiller en signe de soumission et de fidélité.
Ça, c'était à votre époque, mais les choses ont changé.
Bien sûr.
Les choses ont changé aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur.
Vous êtes maintenant jeune, c'est le mari qui doit vous servir.
Mais ça fait du bien, non, dans le couple, de voir son mari vous servir.
Oui, actuellement, oui. Ben, ça, c'est la civilisation européenne qui a fait ça.
Vous n'appréciez pas, apparemment.
Si, hein. J'apprécie, pourquoi pas.
Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez obtenu une bourse des missionnaires catholiques pour aller poursuivre vos études en Belgique.
Je n'ai pas obtenu une bourse des missionnaires catholiques. Les missionnaires catholiques, quand j'ai terminé mes études secondaires, m'avaient envoyé aller faire l'école supérieure d'administration à Kisantou, ici dans le Bas-Congo.
Dans le Bas-Congo, oui.
Et fort heureusement, pour moi, j'ai fait une année. Après cette année, le gouvernement belge, à l'époque, avait créé les universités Lovagnum actuellement, on l'appelait Lovagnum à notre époque, et puis l'université officielle du Congo, du Rwanda, Burundi, à Elisabethville. Donc aujourd'hui, l'IOC, université officielle du Congo.
Du Congo, oui. Ouais. Mais comment vous vous êtes retrouvé en Belgique?
Je me suis retrouvé en Belgique à ce moment-là, parce qu'à l'époque, lorsque vous entrez à l'université, il y avait une année qu'on appelait la pré-U. Donc c'était une année préparatoire. On pouvait pas vous admettre directement dans une faculté quelconque. Comme c'était une université officielle qui regroupait les trois colonies belges, le Congo, le Rwanda et le Burundi, on était mélangés, on était à peu près 50. Et lorsqu'on était au cours, puis à certains moments, il y a un professeur qui est venu de l'Université libre de Bruxelles qui s'appelle Yerno. Le professeur Yenno, il est venu nous passer un test psychologique, de psychologie, pour savoir, pour connaître la maturité de ces étudiants. Bon, nous avons rempli tranquillement, sans problème, et deux mois après, il est revenu et il a proclamé qu'il y avait 12 qui avaient réussi le test, dont Jacques Massangou, que je suis. Alors après, le recteur nous avait appelé à son bureau, disant que voilà, vous avez la chance, on va vous donner chacun une bourse d'études du gouvernement belge.
Ah donc c'était une bourse du gouvernement belge,
belge
qui
oui.
Vous a envoyé en Belgique.
C'est ça.
Cette bourse vous a permis d'étudier les sciences politiques, sociales et relations internationales.
Oui, c'est ça. À l'Institut Solvay. L'Institut Solvay est annexé à l'Université libre de Bruxelles.
Ambassadeur, vous êtes marié, père de 3 enfants.
Oui.
Alors, quel est le souvenir qui vous a marqué pendant votre jeunesse?
Le souvenir qui m'a beaucoup marqué pendant ma jeunesse?
Oui, je sais que vous avez beaucoup de souvenirs en tête, mais il y a sûrement un qui vous a le plus marqué.
Ce qui m'a beaucoup marqué, vous m'avez posé la question tout à l'heure de parler du centre de circoncision. Ce n'était pas seulement centre de circoncision, mais c'était un centre d'éducation pour pouvoir vous donner l'endurance et l'espérance dans la vie et savoir se battre dans la vie. Vous avez remarqué que dans ma publication, j'avais cité ma mère lorsque ma propre maman me disait « Jacques, ne te laisse pas faire, il faut savoir se supporter soi-même ». Et dans la vie, lorsque vous ne savez pas vous supporter vous-même, vous ne pouvez rien faire. C'est cette endurance-là. J'étais un garçon courageux et je voulais à tout prix aller de l'avant, étudier surtout. Dieu merci pour moi. Dieu m'avait donné une intelligence et une forte mémoire. Alors j'avais envie de connaître ce que je ne connaissais pas. Voilà, c'est ce courage.
Et vous connaissez aujourd'hui ce que vous ne connaissez pas?
Oui, sauf bien sûr la science-fiction.
Radio Capi, grand témoin. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jacques Massangou Amwanza, homme politique congolais, plusieurs fois ambassadeur de la RDC dans plusieurs pays d'Europe. On va parler de votre parcours professionnel et politique, monsieur l'ambassadeur.
En 1961, vous étiez déjà sur la scène politique congolaise.
Oui, ça c'est une belle histoire. Je n'ai jamais voulu faire la politique moi-même.
Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a attiré?
Personnellement, il n'y avait rien qui m'attirait, parce que lorsqu'on a fait les élections au Congo, moi j'étais en Belgique. Je faisais un stage pratique après mes études au ministère des Affaires étrangères belge. Alors, un jour, il y a le directeur qui me dit, bah, on t'appelle au cabinet du ministre. Moi, dis-moi, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? C'était après les élections au Congo. Et j'arrive dans le cabinet du ministre, le ministre me reçoit, dit, c'est toi Jacques Massangou? On dit, oui, c'est moi. On dit, tu es élu sénateur.
Et vous annoncez ça comme ça?
Oui, à l'Assemblée provinciale du Katanga. Moi, je dis, moi, non, monsieur le ministre. Moi, je n'ai pas posé ma candidature pour devenir sénateur. On dit, bon, dans ces conditions, je vais interroger le gouverneur de province, monsieur Scholler, qui est en même temps vice-gouverneur général du Congo belge. Alors, on a interrogé monsieur Scholler par télégramme à l'époque. Et le troisième jour, il me convoque de nouveau, dit, c'est toi, prépare-toi, tu dois regagner Léopoldville tout de suite. Tu es élu sénateur.
Et vous avez accepté?
Oui.
Vous n'aviez pas d'expérience, vous avez accepté quand même d'aller travailler au Sénat.
Oui, j'ai accepté et arrivé à Léopoldville, j'étais accueilli par M. Sindou Jasson, c'était le leader du quartier Baloubakat. Lui-même, M. Sindou, me révélait là en disant, non, c'est lui qui a été chez ma mère, demander une petite photo, passeport, et c'est lui qui avait présenté ma photo à l'Assemblée provinciale du Katanga pour que je sois élu sénateur. On dit, ah, vous m'avez surpris, monsieur le président. Je dis, non, tu es un garçon bien, intelligent.
Vous connaissiez très bien.
Même quand ils sont venus à la table ronde, moi j'étais à ce moment-là.
À Bruxelles.
Oui, on les fréquentait, on parlait avec eux. Bon, je n'avais aucune ambition de faire la politique. Voilà comment est-ce que, par la grâce de Dieu et par la volonté de Dieu, cet homme avait pensé à moi. Je ne sais pas l'expliquer.
Et c'est comme ça que vous êtes entré en politique?
Oui, c'est comme ça que je suis entré en politique.
Et vous êtes tombé amoureux de la politique, puisque vous
Ce n'est pas terminé, madame. Et quelques jours après, on devait, justement, le ministre Grand Chauffe, Van der Merch, qui est le ministre des colonies, qui a été chargé d'organiser les élections au Congo et préparer l'indépendance du Congo. Alors, à ce moment-là, il avait chargé M. Lumumba de faire d'informateur pour former le gouvernement du gouvernement central. Bon, M. Lumumba avait échoué. Nous étions, en fait, mon parti était lumumbiste. Parce que nous étions, pour nous, on était de un parti nationaliste qui ne voulait pas de la séparation ou le fédéraliste. Alors, à ce moment-là, après, il y a eu d'accrochages. Lumumba n'a pas réussi. On a chargé M. Kassavubu. Bon, M. Kassavubu aussi avait échoué. Bon, finalement, le ministre belge chargera encore M. Lumumba de former le gouvernement. C'est ainsi que quand Lumumba a formé son gouvernement, il y a eu une coalition de nationalistes pour pouvoir soutenir M. Lumumba. Bon, alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les MNC Lumumba et les MNC Kalonji qui étaient divisés, bon, se sont réunis ensemble et on a associé à leur réunion notre président de la Baloubakat, et en associant M. Sindoué à cette réunion-là, et M. Sindoué exigera aussi qu'il voudrait avoir la vice-présidence du Sénat. Et c'est là aussi
que vous avez chance, été choisi.
Ma chance exceptionnelle, monsieur Sindoué, m'a choisi, moi, pour devenir premier vice-président du Sénat. Et curieusement, sur 60 sénateurs votants, j'ai eu 44 voix.
Mais pourquoi il vous a choisi, vous? Il vous faisait confiance par rapport aux autres sénateurs de la Baloubakat?
Peut-être parce que j'étais l'un des personnes qui avait reçu une formation beaucoup plus supérieure que les autres, peut-être. Mais seulement, c'est un homme qui, je dirais, franchement, je n'oublierai jamais, c'est un homme qui m'aimait beaucoup. Pourquoi? Je ne peux pas l'expliquer.
Alors, monsieur l'ambassadeur Massango, vous avez travaillé pratiquement avec tous les régimes qui se sont succédés en RDC, sous les régimes de monsieur Kassavubu, vous avez occupé des fonctions, le régime de monsieur Mobutu. Vous avez occupé des fonctions. Le régime de M. Kabila occupe encore des fonctions. Les régimes de M. Joseph Kabila encore des fonctions. Comment vous expliquez ça?
Oh, j'explique ça. Je reviens toujours à ce que ma mère m'a donné comme conseil. Vous voyez que je respecte quand même vous, les mamans. Ma mère disait toujours, dans la vie, il faut savoir se prendre soi-même en charge. Et bien, depuis lors, ce conseil de ma mère ne me quitte pas. Jusqu'à aujourd'hui. Je me prends toujours en charge, même à l'âge de 85 ans. Je ne dépends pratiquement pas de mes enfants. Je me débrouille seul. Je travaille encore, vous voyez.
Et en passant, vous êtes responsable d'une chaîne de télévision au Katanga.
Oui, oui, la radio-télévision Kyondo, qui est en fait pratiquement une radio privée qui appartient à ma famille.
Et vous n'avez pas envie de vous reposer un peu?
Oui, j'ai envie, mais j'attends mes petits-enfants. L'un de mes petits-enfants viendra un jour me remplacer.
Alors, de toutes les fonctions politiques que vous avez occupées dans ce pays, lesquelles vous ont marqué?
Oh, marqué, comme vous savez, j'avais fait la politique malgré moi. Moi, ce n'était pas ma volonté. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé la diplomatie. La vraie diplomatie. Et non pas être nommé ambassadeur de nom et ne rien faire. Vous voyez, en tant que diplomate, j'ai côtoyé les mondes différents. Et puis, j'ai eu la chance particulière d'avoir travaillé rien qu'en Occident. Je n'ai pas travaillé en Afrique ou ailleurs.
Et donc, vous connaissez très bien l'Occident?
Oui, très bien. Depuis ma jeunesse, parce que j'avais commencé comme ambassadeur encore jeune, jusqu'à ce jour.
Combien d'années en diplomatie?
Oh, presque 30 ans. 30 ans de diplomatie. Et je suis un batteur, un boxeur. Tous les présidents m'appréciaient, de Kassavubu à Mobutu, de Mobutu à Laurent Désiré Kabila, de Laurent Désiré Kabila, son fils aujourd'hui. C'est la seule fonction qui m'a beaucoup intéressé.
Alors, vous avez travaillé avec le président Mobutu. Ouais. Quand il a été renversé, Laurent Désiré Kabila arrive. Il vous a récupéré pour travailler avec lui.
Oui.
Est-ce que parce que vous étiez de la même province que lui, qui vous a récupéré? Parce qu'on sait que beaucoup des gens qui ont travaillé avec le président Mobutu ont connu quand même des problèmes avec le régime Kabila quand il est arrivé.
Oh non, on se connaissait très bien avec le président Moïse Kabila. On se connaissait très bien. D'abord, Laurent Désiré Kabila, et c'est aussi un enfant de Jadoville. Son père travaillait à la poste, il était percepteur de poste. On s'était connus jeunes, et puis après, on s'est vu pour la deuxième fois. Quand on s'était séparés de longue date, on s'est vu une fois à Kalemi. C'était au cours quand j'avais visité Kalemi à l'époque. J'étais voir mon beau-frère, Roger Capullo, qui était d'ailleurs un copain à lui, au cours d'une réception que mon beau-frère avait organisée pour moi. Alors, je rencontrais Laurent Kabila et tout de suite, on a parlé des souvenirs qui datent de plusieurs années de notre jeunesse.
Alors, justement, c'est ça que je dis. Donc, on vous a évité des ennuis parce que vous connaissiez déjà Laurent Désiré Kabila avant qu'il n'arrive.
Même du temps de Mobutu, j'ai connu des ennuis. J'ai été emprisonné pendant 7 mois.
Par le président?
Par la justice militaire.
Vous aviez fait quoi?
On a été accusé faussement pour avoir été à la base du recrutement de mercenaires. Faussement. Parce que tout simplement, moi me trouvant en vacances, j'étais encore à ce moment-là ambassadeur en Suisse. Et un ami, un blanc, d'ailleurs un médecin blanc, un Italien, que je connais en Italie quand j'étais ambassadeur en Italie, m'a téléphoné que notre ami, la belle Laurent Mosengo, est malade et vient d'être opéré dans un hôpital en Italie. Il m'a dit, bon, dans ces conditions, je prends un avion tout de suite à Genève et je vais aller visiter notre ami Laurent Mosengo, actuellement le cardinal Mosengo. Vous voyez comment, depuis lors, depuis l'11 longtemps, on est restés amis, et nous sommes des amis, nous ne nous quittons pas et nous nous apprécions mutuellement jusqu'à aujourd'hui.
Voilà, monsieur l'ambassadeur Massangou, Jacques Massangou, il faut préciser parce que certaines personnes risquent de penser qu'on est en train de parler de votre fils Jean-Claude Massangou. Ouais. Alors, on va souffler un peu avant de parler de votre ouvrage. Comment vous vous occupez? Comment vous passez vos moments de détente?
Les moments de détente, pratiquement, je vais vous avouer, madame, je suis un homme qui aime lire, qui aime travailler. J'ai toujours... À mon âge, je suis moderne, je sais manier l'ordinateur, je sais faire tout à l'ordinateur. Et j'ai mon PC devant mon bureau, j'ai le PC pour le voyage, etc. Même maintenant, je suis à Kinshasa, je voyage toujours avec mon PC. Mm-hmm. Je suis les informations, même les informations de l'OCAPI, les informations à travers le monde. Je voyage aussi, je vais aux États-Unis, je vais en Europe. Bon, parfois je vais me faire soigner en Europe et je suis toujours occupé. J'ai un seul secret que je pourrais peut-être vous dévoiler.
Allez-y.
Si vous me posez la question.
C'est quoi votre secret, monsieur l'ambassadeur?
Il y a un secret pour moi. Je prends le petit déjeuner le matin, rien que le croissant, un thé au citron. Et puis, c'est fini.
Et c'est parti pour toute la journée?
Oui, toute la journée, je rentre dans mon petit bureau, où je travaille, ou soit j'écris, soit je photocopie, ou bien je fais mon imprimante et tout ça, s'il y a des nouvelles qui m'intéressent, même de l'OCAPI, pourquoi pas. Ben, des nouvelles qui m'intéressent, ce n'est qu'à 18h que je rentre à la maison pour manger. Quand je mange, je regarde un peu la télé, je fais la lecture, et puis après, je dors. Je n'ai pas de loisirs, je ne suis pas habitué.
C'est la discipline que vous vous êtes donnée.
Oui, c'est la discipline que je me suis donnée depuis plusieurs années, même en Europe.
Et c'est grâce à ça que vous êtes très en forme à 85 ans quand même.
Voilà.
Vous êtes en forme, quoi.
C'est un secret.
Est-ce que vous arrivez de temps en temps d'écouter la musique, un peu de musique?
Oui, j'aime bien la musique.
Quel genre de musique vous écoutez?
Oh, j'aime la musique classique, même la musique moderne. J'aime bien la musique, la rumba. Je suis vieux. Vous voyez, j'aime les anciennes chansons de Cabasele, de Rochero, de Franco.
Et vous fredonnez un peu quand vous écoutez ça, vous chantez un peu,
bien
ça
sûr,
vous rappelle
les
vieux souvenirs.
Ne vous trompez pas, je danse encore très bien maintenant même.
Ah bon? Alors, est-ce que vous pouvez prédonner un petit extrait d'une chanson de Cabasele ou de Franco pour nous?
Oh, non. Je vais vous donner une chanson, ou plutôt de Rochero. Mm-hmm. Bon, un jour, Mobutu nous avait réunis en 1967 et il avait convoqué tous les ambassadeurs. Nous sommes arrivés ici à Léopoldville. Bon, il a dit, voilà, on va faire une randonnée jusqu'à Bandaka. Et là, on avait embarqué aussi l'orchestre de Rochero. Alors, Rochero avait composé une chanson, Mukoro na Kukufa. Alors, quand Mobutu a entendu cette chanson, chanter ça, il était fâché. Il croyait que...
C'était pour lui qu'on chantait.
Voilà. Donc, j'aime bien...
Dans Mokolo na Kokufa de Rochero.
De Rochero, oui. Il y a aussi Kiamangana. Mm-hmm. Zambe, Usalakinini. Poanini, Usalakimuntumuindo. Parce que on sent que, d'après lui, celui qui avait composé la chanson, je ne sais pas s'il vient encore, ou parce qu'il n'entend plus dans la chanson.
Il est là, il vit encore.
Il vit encore,
ouais.
Bon. Il chante plus. Alors, à ce moment, c'est une chanson qui traduisait un peu, qui avait un peu fâché, voire même de religieux. Pourquoi Dieu vous avait créé un noir par rapport au blanc? Un jour, j'étais en vacances en Côte d'Ivoire. Je suis allé à Yamoussoukro, et arrivé à l'hôtel président que le président Fouad Boigny avait fait construire dans son village. Et la première fois, c'était la première fois que j'ai entendu cette chanson en Lingala. J'étais très surpris. C'était en vogue à l'époque. Voilà, pour vous dire que j'adore la musique Kabasele. de Franco.
Les anciens succès, la rumba, en fait, vous adorez.
La rumba, oui. Ouais. Je préfère la rumba.
Et comme vous avez dit.
Il y a des moments où je regarde les émissions ici à Kinshasa. Je vois à la RTNC, on organise parfois cette musique-là. Il y a des vieilles mamans comme moi qui dansent avec les maris, même avec les jeunes, qui dansent la rumba.
Ouais.
Alors ça me plaît beaucoup. Ça me rappelle ma jeunesse.
On va vous faire plaisir en vous proposant une des chansons que vous avez demandé. Jean-Noël Mokondo, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, tu nous proposes laquelle parmi les deux demandées par l'ambassadeur?
Boso mwindo e utande wapio, boso mwindo e utande wapio. Koko na biso ya kala yena niye, Yesu mwana nzambe yende mondele. Ata muna eva bangonde mindele, pasantu nyoso bangope mindele. Kona ninyo,
ae na komitu naka.
Zambeo na komi tunakao, babu kwa nzambe tomona kaboye, basantu nyoso foto semindele, banzelu nyoso bango semindele, soki zambulu foto moto mwindo, oh. Injustice, me uta wapio, ah mama.
Ae, na komitu naka. Ae, na komitu naka.
Boso mwindo e utande wapio, banoko bakanga biso maele boye, bike kwa bakoko bango baboyaka, kisa bakoko bango bani makate, kasi nanda kwa nzambe biso tomonaka, toko sambela chapele na maboko. Toko sambela, bikeko bito mindako. Asi bikeko yango, semindele, pona nini nzambe.
Ae, nako bitu naka. Ae, nako bitu naka.
Nzambe o, nako bitu naka o. Ba profete mindele, biso jodi maka. Kasi abato mwindo, bango bandi makate. Una nini nzambe o salabiso boye Afrika miso efungwani Afrika tozonga simate a mama
ae na komitu naka ae na komitu naka.
Thank you.
de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui l'ambassadeur Jacques Massangou à Mwanza. Plusieurs fois ambassadeur, il a occupé plusieurs fonctions politiques et diplomatiques. Monsieur l'ambassadeur, vous, comme je l'ai dit dans mon introduction, vous venez de publier un ouvrage, Le Katanga, que veut-il ? Mémoire d'un ambassadeur. La première question qui me vient à l'esprit, pourquoi d'abord cette interrogation, ce titre interrogatif, Le Katanga, que veut-il ?
C'est un titre tout à fait... qui a été rafraîchi pendant plusieurs mois. Et quand je suis rentré venant d'Europe, bon, d'abord, j'ai passé une grande partie de ma jeunesse en Europe. Ensuite, j'ai travaillé en Europe, en Occident. Bon, en travaillant en Occident, j'ai vu l'esprit du nationalisme dans tous les pays européens. J'ai été aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, on ne se dit pas parce qu'il est de Nevada, où il est de Californie et où il est de Indianapolis, on se dit « I am America ».
On est américain.
On est américain. Tout américain. Mais au Congo, ça m'a frappé. Même à Lubumbashi, que ce soit au Katanga ou même ici, « Ghana, ça mou Congo. Oh, Ghana, ça mou Luba. Mimi niko Muluba, mimi niko Mubemba, mimi niko Fulani. » Non, nous sommes tous des Congolais. Et pourquoi? Pourquoi le Katanga est spécial? Veut être en dehors de notre agglomération unitaire qui est le Congo. Non, nous sommes tous Congolais, car beaucoup de gens ne savent pas.
Parce que là, vous vous adressez à ceux qui cherchent, qui réclament la sécession du Katanga.
Pour vous donner un exemple, vous m'avez parlé tout à l'heure d'une chaîne de télévision et de radio que j'ai créée. Elle est uniquement éducative, elle est uniquement culturelle. Il ne fait pas de politique. Pourquoi ? Il faut inculquer dans la tête de ses habitants de cette contrée du Katanga la culture. Pourquoi on ne parlerait pas de l'Empire Lunda, de l'Empire Baluba, du royaume du Bakongo ? Mais pourquoi créer des divisions entre nous? Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes tous dans un même pays et il y a des clivages, même à Lubumbashi. Bon, moi, je suis du Nord Katanga. Moi, je n'ai pas demandé à être Mouluba du Katanga. L'autre qui est venu du Kasaï n'a pas demandé à être Mouluba du Kasaï. Et ce qu'on oublie, lorsque les Belges avaient créé l'Union minière du Haut-Katanga pour l'exploitation de cuivre. On a fait venir des travailleurs nombreux qui venaient du Kasaï, nombreux qui venaient du Nord-Katanga. Il n'y avait pas que les gens du Sud-Katanga qui ont travaillé pour que le Katanga soit ce qu'il est aujourd'hui. Il y a plusieurs ethnies du Congo qui ont travaillé pour que le Katanga soit qu'il est devenu aujourd'hui. Il en est même de Léopoldville, qui chassa aujourd'hui. Il y a plusieurs ethnies qui sont là. Mais nous devons tous nous considérer Congolais au même titre.
Est-ce que cette pratique ne remonte pas à l'indépendance? Puisque dans votre ouvrage, vous déplorez le fait que dans les années 60, l'homme blanc a longtemps recouru à une pratique ethno-tribale. Et c'est à cause de ça que, en fait, ça continue jusqu'à aujourd'hui, cette pratique que l'homme blanc avait entretenue ou mise en place.
Oui, l'homme blanc avait entretenu ça pour l'homme blanc, il avait ses raisons. Divisé pour régner, il avait ses raisons.
Mais déjà, lorsqu'on vous a déjà inculqué ça dans la tête, est-ce que c'est facile de vous débarrasser de ça, monsieur l'ambassadeur?
Pourquoi pas, madame? Tout à l'heure, vous m'avez parlé qu'aujourd'hui, votre mari peut vous servir à boire. Il peut même préparer le repas pour vous. Pourquoi les hommes congolais ont changé avant avec les habitudes ethniques? L'homme ne peut pas passer à la cuisine. L'homme ne peut pas laver la vaisselle. Hein? Aujourd'hui, l'homme a changé. Vous faites plaisir à sa femme parce que ils sont égaux. Et pourquoi pas? C'est ça le problème. L'homme blanc, à l'époque, si vous lisez très bien, j'ai bien développé ça dans l'ouvrage, il n'y avait pas de vrais partis politiques. C'était des partis à base tribale.
Tribale, ouais.
Ce sont des associations d'entraide mutuelle.
Bon, qui se sont transformées en partis politiques.
C'est là où les Belges, surtout les administrateurs des territoires, en avaient profité pour, soi-disant, ils sont conseillés, ils achetaient même les cartes d'affiliation à telle association de Basongue ou de Balouba ou... Conséquence, on s'était retrouvés lorsqu'ils sont allés aux élections en 1960 avec des partis à base tribale. Seul Lumumba qui avait fait un vrai parti politique, le MNC Lumumba. Voilà.
Le Katanga, que veut-il? Est-ce que vous avez trouvé une réponse à la question que vous vous êtes posée?
La réponse, je l'ai, mais je ne peux pas dévoiler ça. Il faut que les gens, le chercheurs, puissent le faire. J'ai la réponse.
Donnez-nous la réponse, monsieur l'ambassadeur.
La réponse est très simple. C'est faire disparaître ce clivage des divisions. Mais malheureusement, on encourage cette division maintenant par la création de petites provincettes. Sur quelle base on crée de petites provincettes?
Vous êtes contre le découpage territorial, si je vous comprends bien.
Je suis d'accord, mais il ne faut pas diviser les tribus non plus. Ça va nous créer des problèmes. Parce que dans le découpage, il fallait d'abord arriver à interroger les populations concernées. Si ces populations-là sont d'accord d'être découpées. Bon, vous trouvez, je vous donne l'exemple du Katanga. Bon, vous trouvez une partie de Balouba dans la province du Tanganyika, l'autre partie dans la province du Olomami. Les Balouba ne veulent pas être divisés de cette manière-là. Et ceux qui vont aller trouver des grosses tribus dans la province seront minoritaires. Et il y aura encore des problèmes et ils vont se plaindre. Ils vont créer peut-être des histoires qui vont encore nous créer des luttes, des guerres et tout ça. Moi, de toute façon, je ne vois pas pourquoi on doit diviser les Katanga. Moi, je ne suis pas pour la division.
Et vous préférez que cette province reste telle qu'elle?
Telle qu'elle, c'est tout. C'est tout.
Alors qu'il y a certains notables du Katanga qui appuient ce découpage territorial.
Ce sont des ambitions politiques. On croit que, si on divise la province, moi je serai gouverneur à telle province là, je serai cessé dans telle autre province, parce que je serai ministre provincial ou je serai député. Ça, ce sont des ambitions politiques. Mais il faut voir l'intérêt du peuple. Il ne faut pas faire souffrir le peuple.
Monsieur l'ambassadeur, vous êtes aussi notable du Katanga. Vous êtes quand même une personne influente dans cette province. C'est vrai que le Katanga aujourd'hui est pointé du doigt, disant que c'est une province où on sent vraiment le tribalisme. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau, en tant que notable du Katanga, pour faire sortir cette image-là du Katanga tribalisme?
Je ne suis pas notable du Katanga. Je suis notable parce que je suis né au Katanga. Je suis beaucoup plus estimé à Kinshasa qu'au Katanga même. Au Katanga, il n'y a personne qui me consulte. On ignore même ce que j'ai fait dans ma vie. Voilà la question qui est posée. Il fallait voir, madame, quand on a fait le vernissage de ce livre, bon, la crème, le monde politique qui assistait à ce vernissage, parce que c'est l'ambassadeur Jacques Massangou. Mais au Katanga, on m'ignore. Moi, je ne sors pas. Je suis chez moi. Je ne me promène pas. Je ne connais même pas de loisirs au Katanga.
Et vous préférez rester chez vous, carrément, et observer ce qui se passe dans la province?
Non, je préfère rester chez moi parce que j'avais un souci. Vous savez, il faut aider aussi les autorités de ce pays. Pourquoi j'ai créé la chaîne de télévision et de radio? J'ai donné du travail, j'ai créé de l'emploi aux jeunes gens qui terminent comme journalistes comme vous. Et pour le moment, j'emploie 53 personnes à ma chaîne de télévision et radio. C'est de l'emploi que j'ai créé pour ces jeunes gens qui ont des femmes, des enfants, des parents à charge, etc. et tout. Voilà. Ça, c'est plus important que faire la politique et parler ou se montrer qu'on fait quelque chose, qu'on fait ceci. Donc, il faut aider la population. Il faut trouver des mécanismes qui puissent nous permettre d'aider cette population-là.
Justement, mécanisme pour aider la population, vous avez créé de l'emploi, c'est bien, mais lorsqu'il y a des clivages entre ce peuple à qui vous donnez de l'emploi, il faut trouver aussi un moyen de pouvoir les réunir, non?
Oui, je vais vous surprendre, madame. Ma chaîne, c'est une chaîne de télévision, de radio et télévision Kyondo. Elle est dirigée par un directeur général qui n'est pas de ma tribu, qui est originaire du Sud. Je pense que vous avez entendu parler de M. Kassongo Mouema, qui travaille à RFI. C'est lui, le directeur de ma chaîne de télévision. Il est Moussang, originaire du Sud Katanga. Il n'est pas Moulouba du Nord Katanga comme moi. Voilà l'exemple qu'elle donne. Moi, je ne suis pas tribaliste.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de votre ouvrage, finalement? Vous êtes contre les tribalismes, contre la sécession du Katanga, contre les découpages territoriaux?
Je veux bien qu'on puisse découper, mais il faut consulter la masse. Il faut consulter les populations concernées par référendum. Voilà ma philosophie.
Nous sommes presque à la fin de notre entretien, monsieur l'ambassadeur Massangou. Oui. Vous avez un dernier mot adressé à tous ces auditeurs de Radio Okapi que nous suivent. Ils sont très nombreux à nous suivre à travers le pays et même à l'étranger. Nous sommes suivis partout au monde. Quel message vous apportez à tous ces gens qui nous suivent?
Oui, à tous ceux qui nous suivent, je leur demande d'adopter la idéologie nationaliste de la nation. Nous sommes une même nation qui s'appelle la nation congolaise. Et en tant que telle, nous avons le droit de nous aimer, de nous entraider entre nous. Ainsi, nous allons construire ce pays ici qui est un pays merveilleux que Dieu nous a donné. Où il y a tout, il n'y a aucune province qui est pauvre dans ce pays ici. Nous avons la pluie, nous avons l'eau, nous avons les rivières. Dans toutes les provinces du Congo...
Il y a une richesse.
Oui, il y a une richesse. Du sous-sol et partout, les populations de ce pays trouveront le bonheur qu'on recherche aujourd'hui. C'est ça le plus important. Mais nous devons nous aimer les uns les autres. Ainsi, nous allons construire notre beau pays qui est la République démocratique du Congo.
Monsieur l'ambassadeur Jacques Massangou Amwaza, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce studio des Radio Okapi.
C'est moi qui vous remercie.
Au plaisir. Madame. Peut-être qu'on se reverra un jour à Lubumbashi. On viendra voir à quoi ça ressemble, votre chaîne de télévision Radio Kyondo.
Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir bien voulu me laisser voir dans votre studio et avoir le plaisir d'avoir une jeune femme devant moi qui m'interroge. Je suis très, 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 très flatté. Merci beaucoup.
Merci. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Jacques Massangou Amwaza, homme politique congolais, plusieurs fois ambassadeur de la RDC dans plusieurs pays européens. Merci à Jean-Noël Mokondo et Bob Landou qui étaient à la mise en onde de micro auquel écoutaient. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programmes sous la fréquence de la paix.